wonder about you. Are you raising or watching?
La dispute.
Spectacle vivant.
Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Pierrick Monsigny. Réalisation Alexandre Fougeron. Autour de moi ce soir, Marie Sorbier, Lucille Como, Philippe Chevillé pour parler ensemble de Premier Amour de Samuel Beckett, mise en scène interprétée par Samy Frey. C'est en ce moment au Théâtre de l'Atelier. Gardienne de et avec Fanny Cabon, mise en scène Bruno de Saint-Riquier. C'est au Théâtre du Gymnase Maribel. The End of Reality de Richard Maxwell, mise en scène par Marie-Josée Malice au Théâtre de la Commune d'Aubervilliers. Il y aura un coup de cœur de Marie Sorbier pour Nous. Non pas la chanson d'Hervé Villard, mais le spectacle de Fabrice Gorgera au Théâtre de Lausanne, puis en tournée. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour les expositions de la nouvelle saison du Palais de Tokyo, sensible, du 20 février au 12 mai. Mais avant d'ouvrir le programme de cette dispute, quelques mots sur Serge Merlin, dont on a appris samedi la mort à l'âge de 86 ans. Il a, comme Samy Frey, dont on va parler dans un instant, été dirigé par les plus grands, Jean-Louis Barrault, Patrice Chéreau, Bernard Sobel, Mathias Langhoff, André Engel, Alain Françon, la liste est évidemment très longue. Comme Samy Frey, il avait aimé jouer Beckett, presque tout Beckett pour Serge Merlin, beaucoup de Thomas Bernhard aussi. Mais le roi Lear, qu'il a joué deux fois en 86 et en 2013, était le rôle qu'il disait avoir été le rôle le plus important pour lui. Quelques souvenirs de Serge Merlin, Philippe Chevillé?
D'abord, le premier souvenir, moi, qui m'a donné presque un vertige, c'est le fait que j'avais vu le roi Lear de Mathias Langhoff en 1986, et que déjà je voyais un acteur qui venait un peu du fond des âges, qui portait le rôle du vieux roi, et après je le retrouve presque 30 ans plus tard chez Scaretti dans un roi Lear tout aussi vieux, mais tout aussi vaillant. Ça, on avait l'impression que c'était une bête de scène un peu immortelle. Et puis ce qui me frappe aussi, c'est cette capacité à incarner ces grands monstres de théâtre, que ça soit chez Beckett, Minetti ou chez Thomas Bernhard, Minetti, chez Beckett, fin de partie. Moi, c'est les trois qui me restent en tête avec le roi Lear. Et à chaque fois, de pousser au plus loin le personnage, de lui donner une dimension vraiment presque mythique. Et la dernière chose qui me frappe, c'est que c'est un acteur, on n'a pas envie de dire qu'il était virtuose ou qu'il avait du talent, parce qu'on a l'impression que c'était vraiment quelque chose de totalement inné, qu'il était absolument investi comme quelque chose de presque de diabolique ou de divin, je sais pas, mais que c'était un acteur absolu, quoi. Et donc c'est ce souvenir-là d'extrême sur scène, qui pouvait être de l'extrême d'ailleurs dans la violence et dans le côté furieux, et en même temps dans le côté tranquille aussi. On avait l'impression que sur scène il pouvait faire imploser un spectacle à lui tout seul, et pourtant il arrivait à s'y couler quand même, parce qu'il était vraiment, que ça soit Françon, Scaretti, tout ça, il jouait le jeu, c'était pas un cabotin du tout.
Alors c'est vrai que en lisant quelques articles consacrés à sa disparition, j'ai découvert qu'il avait une forte notoriété à cause du fabuleux destin d'Amélie Poulain, le film de Jean-Pierre Jeunet, que je n'ai pas vu en entier, donc j'ai dû me sortir de la salle avant que Serge Merlin n'apparaisse, mais on l'avait vu aussi très récemment dans un tout autre rôle, en Louis XI, dans le film de Pierre Scholler. Sur la Révolution française, dont le titre m'échappe, Lucille Como, vous allez me souffler ça, vous aussi. Hein, bon, enfin, nos auditeurs et auditrices seront trouvés par eux-mêmes. Il y avait cette notoriété-là, et c'est vrai qu'on le voyait de temps en temps dans des films, voire des séries télé. Serge Merlin, Lucille Como.
Oui, justement, c'est drôle ce que vous disiez, Philippe, sur ce corps qui reste le même, qui est une sorte de vieillard céleste depuis longtemps, parce que pour moi, c'est aussi Amélie Poulain. Bon, c'était pas en 1986, mais finalement, ça commence à être assez vieux. Ça doit être la fin des années 90. Et je me souviens, en effet, de cette figure qui, pour moi, était déjà vraiment un vieillard magnifique, quoi. Et qui, en effet, que j'ai retrouvé à peu près à l'identique sur la scène du roi Lear de Christian Scaretti. Je crois que c'est la seule fois où je l'ai vu au théâtre. Pour le coup, moi, je me souviens de pas beaucoup avoir aimé le spectacle, mais de l'avoir vu totalement comme indépendamment du spectacle de Scaretti, dans un rôle qui, en effet, était... C'est drôle, ces rôles qui sont taillés un peu pour certains comédiens. Bon, là, c'est le cas du roi Lear. Et puis, On va en parler avec Samy Frey un peu après, mais il y a des correspondances, j'imagine, entre le corps de Scaretti, de Serge Merlin et le corps de Samy Frey, ces espèces d'évidence de corps beckettien, quoi.
Un peuple et son roi me souffre, ah oui. Alexandre Fougeron, dans mon casque. Dire aussi que cette incandescence, moi j'ai. Il y a quelque chose d'Artaud quand même aussi, physiquement, chez Serge Merlin, qui n'était pas la chose la moins impressionnante chez lui. Marie Sorbier, quelques souvenirs de Serge Merlin ?
Oui, un souvenir, un grand souvenir. Moi, je l'ai vu, je crois que c'est la dernière fois où je l'ai vu sur scène, c'était pour Fin de partie, mise en scène par Alain Françon. C'était à la Madeleine.
Ah.
Parce que d'abord, c'était à la Madeleine, et après, ça a été repris à l'Odéon. C'est une des rares pièces qui a eu ce chemin-là, du privé vers le public. Et moi, quand je l'avais vu, c'était la version avec Jean-Quentin Châtelain. Et donc, je ne sais pas si vous pouvez imaginer un Beckett avec Serge Merlin et Jean-Quentin Châtelain sur la même scène.
Ouais, j'ai vu ça, oui.
C'était quand même quelque chose d'assez improbable. Et la pièce, on sentait tellement la force et presque la caricature qu'étaient ces deux acteurs sur scène, mais une caricature magnifique, du grotesque magnifique. Et c'était un des plus beaux Beckett, moi, que j'ai vu mis en scène. Donc c'est le souvenir que j'aimerais garder de lui.
Voilà, c'était quelques mots simplement, mais qu'on avait envie de dire ce soir pour saluer la mémoire de Serge Merlin. Et on va ouvrir le cours prévu de notre dispute ce soir en disant qu'il y a dans toute saison théâtrale digne de ce nom des événements et que la présence de Samy Frey, à mon sens, la présence de Samy Frey sur scène en est un. Il a 81 ans, il revient une troisième fois à Premier Amour, texte de Samuel Beckett publié aux éditions de Minuit. Il a créé ce spectacle en 2009 au Théâtre de l'Atelier, il y est revenu en 2012 et à nouveau donc en ce début d'année. Lui aussi a été dirigé par les plus grands, Jean-Louis Barrault aussi, Roger Planchon, Claude Régis, Patrice Chéreau, Peter Handke, enfin beaucoup d'autres. Et puis il lui a lui-même signé plusieurs mises en scène, dont celle, très minimale, on va en parler, de ce spectacle. Il joue devant le rideau de fer, très beau rideau de fer doré, sur le petit espace de l'avant-scène. Dans ce rideau de fer, il y a juste une porte surmontée d'une lumière rouge, il y a deux bancs, et puis c'est tout.
J'associe, à tort ou à raison, mon mariage avec la mort de mon père, dans le temps. Or qu'il existe d'autres liens sur d'autres plans entre ces deux affaires, c'est possible. Il m'est déjà difficile de dire ce que je crois savoir. Je suis allé il n'y a pas très longtemps sur la tombe de mon père, ça je le sais, et j'ai relevé la date de son décès. De son décès seulement, car celle de sa naissance était indifférente ce jour-là. Je suis parti le matin et je suis rentré le soir, ayant cassé la croûte au cimetière. Mais quelques jours plus tard, désirant savoir à quel âge il était mort, j'ai dû retourner sur sa tombe pour relever la date de sa naissance. Alors ces deux dates limites, je les ai notées sur un morceau de papier que je garde par-devers moi. C'est ainsi que je suis en mesure d'affirmer que je devais avoir à peu près 25 ans lors de mon mariage. Car la date de ma naissance à moi, non je dis bien de ma naissance à moi, je ne l'ai jamais oubliée. Je n'ai jamais été obligé de la prendre par écrit. Elle reste gravée dans ma mémoire, pas le millésime, tout au moins, en chiffres que la vie aura du mal à effacer. Le jour aussi, quand je fais un effort, je le retrouve, et je le célèbre souvent, à ma façon. Ben, je ne dirai pas chaque fois qu'il revient, non, mais souvent. Or, personnellement, je n'ai rien contre les cimetières. Je m'y promène assez volontiers, plus volontiers qu'ailleurs, je crois, quand je suis obligé de sortir. L'odeur des cadavres que je perçois nettement sous celle de l'herbe et de l'humus ne m'est pas désagréable. Un peu trop sucrée, peut-être, un peu entêtante, mais combien préférable à celle des vivants, des aisselles, des pieds, des culs, des prépuces cireux et des ovules désappointés. Et quand les restes de mon père y collaborent, aussi modestement que ce soit, s'en faut de peu que je n'ai la larme à l'œil. Ils ont beau se laver, les vivants, beau se parfumer, ils puent.
Voilà pour cet extrait de Premier amant de Samuel Beckett interprété par Sammy Frey. Alors juste en découvrant cet extrait sonore, il me semble qu'il a été réalisé pour être enregistré. Et c'est pas la même humeur que moi j'ai entendu sur la scène d'atelier, qui est beaucoup plus beaucoup plus vive, beaucoup plus adressée. Là, c'est un enregistrement pour le micro. Lucille Comeau, votre premier sentiment sur ce spectacle, Premier amour?
C'est un petit spectacle court, mais c'est un très très grand moment de théâtre. En effet, vous décriviez la scène, elle est toute petite, c'est vraiment une bande. Et en fait, quand le spectacle commence, Sammy Frey, il est comme poussé par une sonnerie assez stridente qui revient à plusieurs reprises et cette lumière rouge qui clignote, comme s'il était contraint de performer. Et ça, d'emblée, je trouve ça assez incroyable, les conditions de mise en scène que ça apporte au texte de Beckett. Il faut dire aussi qu'il est vêtu comme une sorte de cliché du personnage beckettien. Pour le coup, ça aussi, c'est très bien fait. Il a un grand imperméable. C'est vraiment le clochard céleste avec un sac en bandoulière un peu vieilli. Il en sort à un moment donné un chapeau mou qui est complètement déformé par son
une
stage.
Une banane aussi, non?
Oui, dans le sac, une banane, non. Oui, ouais. Tout à fait. C'est pas un navet, mais c'est presque pareil. Et ce texte commence en effet par la coïncidence dont on vient d'entendre parler, qui est la coïncidence de son mariage et de la mort de son père. Et j'ai été assez surprise par ce texte que je ne connaissais pas. Je l'avais jamais lu. Qui est un texte de Beckett assez classique, finalement. Bon, après, ça va un petit peu dans les directions très beckettiennes.
Hein, voilà.
C'est un texte assez classique qui relate, en effet, une histoire d'amour avec une chronologie assez propre à toute histoire d'amour. Une rencontre, la consommation charnelle des choses, une sorte d'installation à deux. Bon, tout ça est compliqué. Et puis, une rupture. On va pas tout dire, mais bon. Bon, il se trouve quand même que la femme en question, bon, déjà, elle a pas vraiment de prénom fixe. Des fois, elle s'appelle Lulu, des fois, elle s'appelle Loulou. Elle est prostituée. Enfin, c'est bon, évidemment pas une histoire d'amour très classique. En tout cas, il se confronte là, Beckett, vraiment au lyrisme. Quoi. On sent que c'est une sorte de c'est sa matière, avec une propension à l'humour scatologique que j'avais aussi oublié, qui est vraiment un des fondements du spectacle et du texte.
C'est le cas de le dire.
Voilà, les gens rient beaucoup. Moi, ça me fait pas beaucoup rire comme texte. J'étais assez gênée par ailleurs par les réactions
rire,
dans
ouais.
le spectacle. Mais bon, voilà, ça c'est pas grave. Bon, lui, il est exceptionnel. Moi, ce que je trouve qui réussit à faire, c'est à tenir à la fois du coup cet élément vulgaire et à vraiment le dire, et en même temps une élégance incroyable. Et j'ai vu vraiment Beckett assez différemment de ce que j'entends d'habitude. D'habitude, je vois vraiment la filiation flaubertienne, les textes sur le rien avec de la lacune, des répétitions. Là, comme c'est beaucoup plus éclatant et beaucoup plus classique finalement, j'ai vu beaucoup plus du Victor Hugo, on parlait du Roi Lear ou du Shakespeare, enfin vraiment une filiation un peu baroque et grotesque de Beckett qui m'avait un peu échappé. Donc moi, quand j'entends un texte que j'avais pas entendu, de toute façon, je suis très contente. Et quand j'entends en plus des choses que je ne soupçonnais pas chez un auteur que j'ai par ailleurs beaucoup entendu et beaucoup lu, vraiment ça me convainc. J'ai adoré le spectacle.
Bon, Marie Sorbier à présent.
Oui, alors c'est toujours difficile, je trouve, de parler en critiquant un seul en scène de Beckett, parce qu'on le sait, les héritiers des droits de Beckett sont des gens particulièrement pointilleux, donc les metteurs en scène qui s'attaquent à un texte de Beckett ont très peu de marge de manœuvre, que ce soit en termes de scénographie ou même en termes de costume. Vous en parliez à l'instant, tout est noté à la couleur près et à la mollesse du chapeau près dans les didascalies et dans les textes. Donc quand on met en scène du Beckett, la marge, elle est pas ni sur la scénographie, ni sur les costumes, ni tout ce qui est extérieur, même la lumière rouge est écrite, enfin tout est déjà imposé par le texte de Beckett lui-même. Donc finalement, ce dont on peut parler, ça n'est que, enfin le que est entre parenthèses, mais la prestation de l'acteur, puisque c'est lui qui va prendre en charge le texte et l'émotion qui peut transparaître. Moi j'étais très heureuse puisque c'était la première fois que je voyais Sammy Frey sur scène, je ne l'avais jamais vu, donc c'était un cadeau.
Rien que ça,
ça m'a fait ma soirée. Donc j'étais très contente que l'atelier le reprogramme. C'est la première pièce de la nouvelle direction, Marc Lesage vient de reprendre la direction de l'atelier, c'est son premier choix et sa première pièce, et je trouve ça... un joli cadeau qu'il a fait au public ou aux jeunes générations, en tout cas, qui n'auraient pas vu ce monstre sacré du théâtre. On parlait de Serge Merlin, mais évidemment, il y a une filiation très forte. De voir Sammy Frey sur scène, c'est quelque chose. Et je retiens, moi, particulièrement, ce qui m'a frappé pendant tout ce spectacle, c'est les souffles dans les mots. Parce que il a 81 ans, je crois. Il ne les fait pas du tout, d'ailleurs. On a l'impression qu'il est absolument sans âge et incroyable. Mais il y a les fins de phrases qui s'éteignent dans un souffle. Et ça... Et à la fois, c'est tellement beckettien, c'est-à-dire il n'y a pas plus beckettien que ce souffle-là. Et lui, il le fait parce que c'est lui et parce que c'est sa voix. Et ça a un pouvoir d'émotion qui est absolument dingue.
J'opine hein, tout du long de ses propos. Philippe Chevillé, à présent, va nous parler de ce premier amour par Samy Frey.
Mais ce qui m'a frappé, c'est la même chose que vous, c'est l'incroyable verdeur hein, de ce comédien. Déjà parce que, encore une fois, je vais jouer les seniors ce soir, mais je l'avais vu il y a 10 ans
moi,
au même endroit.
Philippe.
Et en fait, j'ai retrouvé les mêmes sensations, c'est-à-dire de l'acteur absolu, de l'acteur parfait, et qui parle la langue beckettienne sans mauvais accent théâtral, c'est-à-dire sans tomber. Parce que ce texte, effectivement, est assez étonnant. On est étonné par ça. Là aussi, sa verdeur, parce qu'il y a un côté un peu presque potage dans cette façon d'aborder les morts, les vivants, d'aborder l'absurde. Et on n'est pas encore tout à fait dans justement cette. Il n'y a pas cette abstraction. Il est toujours sur cette ligne qui est à la fois une ironie et en même temps un petit côté malicieux et désespéré. Et quand dans ce texte, il y a des moments où tout d'un coup, il y a des moments de poésie quand il évoque par exemple le paysage ou quand l'amour qui rejette jusqu'au bout arrive à transparaître une seconde à la fin, il arrive à porter mais à chaque mot, chaque nuance. Et puis c'est aussi un comédien évidemment de la présence et le mot et la bouche aussi important que les yeux, que le regard, ce regard qu'il a sur les spectateurs. Moi, ça m'a complètement bouleversé une fois de plus.
Mmh. Alors, il faut quand même dire que Samy Frey est extrêmement énervant parce que c'est un homme qui est beau à tous les âges de sa vie. Il était un jeune premier à tomber à la renverse et depuis, dans les films de Claude Sauté et tellement d'autres. Et moi, quand je l'ai vu rentrer sur scène, c'est une apparition. Vous parlez de cette entrée en scène, Lucille Comeau, parce qu'il y a une lumière. Les lumières sont très belles. Il faut d'ailleurs que je retrouve qui signe les lumières parce qu'elles participent évidemment de la réussite de ce spectacle.
Franck Thévenon.
Merci beaucoup. C'est Franck Thévenon. En effet, Christine et Lumière, c'est vraiment une apparition. J'ai l'impression de voir Samy Frey, âge 50 ans, quoi. Enfin, quelque chose de très impressionnant. Alors, certes, c'est une petite boîte, un joli petit théâtre à l'italienne, l'atelier, mais il a une façon, quand même, de se faire entendre, j'imagine, du dernier balcon au fond de l'orchestre, avec en ayant l'air de ne rien projeter, enfin, il y a quand même une science qui est quand même absolument étourdissante. Et puis, c'est vrai que ce texte, moi, chaque fois que je l'entends, moi, je l'ai pour le coup beaucoup lu. Il est quand même d'une richesse folle. Et Samy Frey arrive à chaque phrase à donner cette richesse, enfin, à donner toutes les richesses. On a l'impression, quand on entend une phrase, on entend plusieurs en même temps. Quand même une sensation évidemment assez rare, donc c'est démultiplié ou déplié par Samy Frey. C'est un texte qui est quand même certes classique, mais d'une très grande liberté aussi, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il se permet tout dans ce texte-là, Beckett, et cette liberté, elle est là encore redoublée par la très grande liberté de Samy Frey, mais dont on sait bien qu'il n'y a qu'un immense travail et un immense talent qui permettent ce type de liberté-là. Et puis cette question, hein, je sais que mes voisines derrière moi, elles se posaient la question pendant à peu près tout le spectacle, un peu trop souvent. Mais où est-ce qu'il est alors cet homme? Alors il est déjà mort, il est entre les deux, il est dans les limbes, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Il attend quoi? Et cet enjeu-là, cette sorte de tension, elle est présente tout du long aussi. Lucille
Comeau. Sur l'espace, c'est un texte passionnant parce qu'en effet, il est question à la fois donc, du cimetière où est enterré son père, de ce banc où il fait cette rencontre avec la femme qui est devant un paysage, il y a un arbre. Bon, là, évidemment, on reconnaît les décors qui suivront dans les pièces suivantes. Un arbre mort, le banc, etc. Il y a de la montagne qu'on aperçoit par une fenêtre. Il y a cette espèce de grange où il se réfugie pour écrire tout son amour sur des bouses de vaches. Enfin, tout ça est en effet extrêmement étrange. Et on voit déjà en germe la scénographie. Enfin, mais oui, c'est quasiment
l'espace
la scénographie.
Mental, hein.
L'espace mental. L'espace mental beckettien. Je vais juste revenir sur son âge. En fait, ce qui est vraiment très beau dans ce spectacle, c'est qu'il est quand même un vieil homme, et il joue comme un vieil homme, si on peut dire, même s'il est extrêmement beau encore. Et c'est vraiment, comme en effet c'est un peu un texte potache, on dirait un texte de gamin en fait, on dirait un texte de lycéen, avec toute la misogynie qu'il peut y avoir aussi, l'irrespect.
Dans l'écart quand même là.
Oui, totalement.
Il déteste tout
le
monde.
Oui, tout à fait. Oui, enfin là, en l'occurrence, comme c'est beaucoup sur les femmes, il y a quand même quelque chose sur les femmes qui est particulier. Et du coup, dans cet écart-là, entre sa posture d'homme, c'est Samy Frey qui dit le texte. Et la posture de gamin potache, il y a une espèce de décalage dans laquelle s'engouffre justement toute cette liberté, enfin, toute cette interprétation, l'humour noir qui est là, mais vraiment hyper... Moi, ça m'a quand même assez remué hein, comme texte.
Bien sûr.
Je comprenais pas les gens.
qui riaient autant.
Ouais. Ah ouais,
c'est... Bon, vous savez que le rire, ça va être une arme de défense.
Oui, je sais bien.
On fait semblant de pas entendre ce qu'on entend. Marie Sorbier.
Oui, au-delà de l'humour scatologique, ou enfin, au-delà de la gêne scatologique que je peux comprendre, je trouve qu'il y a une scène magnifique magnifique sur l'humour, c'est celle du déménagement des meubles quand il arrive chez Lulu et qu'il s'installe dans la pièce à côté et qu'il vide.
Il y a beaucoup trop de meubles.
Il y a beaucoup trop de meubles et qu'il vide tout dans le couloir. Et cette scène est magnifique, drôle, extrêmement drôle. Et juste une deuxième chose, pardon, avant de vous laisser la parole, c'est que j'ai l'impression que vous le disiez, il a joué ce texte il y a 10 ans, hein, c'est pour la première fois. Et on a tellement l'impression qu'il a passé ces 10 ans-là avec ce texte qu'on n'a plus l'impression qu'il le dit. Il est devenu ce texte, il le respire, il le transpire. Il y a quelque chose d'extrêmement fluide, mais même au-delà d'une fluidité. Mmh. C'est-à-dire qu'il est devenu ce texte-là, il est complètement habité par ce qu'il dit, par ce qu'il fait, qu'il ne joue plus. Et ça, c'est une sensation.
Ouais, mais d'y arriver avec Je me souviens de Pérec, qui est aussi un grand souvenir, où il faisait Je me souviens sur son vélo, quand il faisait le quartet avec Jeanne Moreau, c'est pareil, on a l'impression que ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense à l'instant où il le dit. Enfin, c'est la qualité pour moi des très très grands. Philippe Chevillé, pour terminer.
Et dans Nathan le Sage à Avignon, mise en scène par Denis Marlowe, moi j'ai le souvenir qu'il gardait donc ce jeu qui est toujours très, en apparence, très calme dans la retenue. Mmh. Et il avait une minute où tout d'un coup...
De fureur.
Mmh. Et on était absolument tétanisés. la dernière chose que je voulais dire sur le spectacle, c'est que, en plus, ce qui est beau, c'est que non content de jouer tout ce texte, c'est qu'on a effectivement un misanthrope un peu pré-apocalyptique, je sais pas comment dire. Et il arrive, en fait, à garder quand même le mystère du personnage jusqu'au bout. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne le fait pas sombrer. Je disais qu'il y a quand même un cri d'amour à un moment donné, mais on sait pas s'il a vraiment été amoureux ou pas. Il garde ce mystère-là et ça, c'est magnifique.
Bon, on pourrait en parler longtemps. On espère pour vous que vous pourriez avoir des places, vous qui nous écoutez, pour aller voir Premier Amour de Samuel Beckett, mise en scène et interprétée par Sam Ifray. C'est jusqu'au 3 mars au Théâtre de l'Atelier à Paris. Et puis bien sûr, le texte est disponible aux éditions de Minuit. À suivre dans la dispute Guardian, The End of Reality et nous.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée au théâtre avec Gardienne, écrit et interprété par Fanny Cabon, mise en scène Bruno de Saint-Riquier. Alors, on leur fait pas vraiment un cadeau en parlant après Premier Amour, un seul en scène, mais bon, il s'agit. On n'est pas toujours dans les mêmes catégories et c'est pas désobligeant ni pour les uns ni pour les autres. Elle avait réussi, Fanny Cabon, à se faire remarquer dans le Off d'Avignon cet été. Elle avait eu d'ailleurs le prix du seul en scène. Elle a passé l'hiver et va connaître le printemps au studio Maribel du Théâtre du Gymnase à Paris. Seul en scène, donc l'auteur et interprète fait vivre devant nos yeux une saga familiale, féminine, depuis la zone de la porte devant jusqu'à elle-même. Et même sa descendance, litanie, douloureuse mais aussi joyeuse, de destin de femme, assignée, résignée, des grossesses multiples aux nombreux avortements clandestins, jusqu'à briser le joug du patriarcat et arracher peut-être enfin sa liberté.
Je suis une femme d'une famille de femmes, fille unique d'une mère qui m'a élevée seule. Mon arrière-grand-mère, Mémé Titine, mettra au monde 7 enfants, dont 6 filles, et ma grand-mère, Jacqueline, est-elle aînée de cette fratrie?
J'ai la tête en bas. Je tourne pas. J'ai la tête à l'envers et mes sœurs me tiennent par les jambes, par la taille, par tout ce qu'elles peuvent. Elles serrent comme elles peuvent et sont obligées d'être au moins 3 pour me maintenir. J'ai la tête en bas. Cul et jambes à l'air. Sans jupe ni dessous. Elles me les ont tirées quand on a vu que je perdais trop de sang.
Oh ben j'ai tout eu, des hémorragies, des infections, oh, une fois j'ai même chopé le tétanos. Oh puis j'avais les curetages à vif pour nous faire passer l'envie, comme disait les médecins. Oh ben à la fin quand André il s'approchait de moi, oh, je tombais dans les pommes. Il y a le médecin qui lui avait dit, faut la laisser tranquille maintenant votre femme. Mais c'est pas facile pour un homme, fallait bien qu'on le fasse. C'est normal entre mari et sa femme. Mais moi, j'avais tellement peur de tomber enceinte que je tombais dans les pommes.
Voilà, ce qu'on vient d'entendre, c'est le teaser, comme on dit maintenant, du spectacle Gardienne. Marie Sorbier, commence à nous en parler.
Oui, alors déjà vous dire que ça se joue donc dans une petite salle au Gymnase, ça se jouait à Avignon cet été, donc on est dans un univers, un petit plateau, la petite salle du Gymnase c'est presque comme une cave, on descend en sous-sol et on est une toute petite jauge et il y a ce petit plateau. C'est une litanie de monologues, comme ça. On commence à la grand-mère, et puis après avec toutes les tantes, puis la mère, et puis jusqu'à elle, et puis jusqu'à sa fille même. Mmh. Et c'est donc une suite comme ça de paroles de femmes, principalement centrées sur la maternité et principalement sur les avortements, enfin en tout cas la difficulté et les contraintes de l'enfantement et de ces sujets-là dans les années 30, avant et après-guerre. C'est un spectacle qui est... très généreux. Je trouve que l'interprète qui s'appelle Fanny Cabon, qui est également l'auteur de cette pièce, elle dit que c'est un assemblage de témoignages. Je crois que c'est vraiment des paroles de sa famille et des gens qu'elle a récoltés. Tout ça sonne très juste. Après, moi, ça me pose un problème dans est-ce que c'est du théâtre ? C'est-à-dire que il n'y a pas de transformation. C'est une pièce qui est livrée brute. Donc on a un discours qui est livré de témoignages, les uns à la suite des autres. Il y a une mise en scène, mais qui est pour moi compliqué, même on aurait pu aller vers plus de sobriété, peut-être que ça aurait servi un peu plus le propos. Je vous donne un exemple, par exemple, donc il y a un mari qui est un peu violent avec sa femme, on entend les bruits des gifles, et puis la comédienne qui fait le mouvement de la tête pour montrer qu'elle a été giflée. On a comme ça des espèces de petits trucs, ou de faux trucs, j'allais dire, qui finalement alourdissent le propos, et on n'en a pas besoin, parce que le texte est assez fort comme ça, elle aurait pu se passer de tous ces effets de mise en scène qui n'en sont pas vraiment. Et moi, ça m'a manqué de transposition, de recul, finalement, face au sujet, et de création d'image, presque. Ça m'a manqué de théâtre. Voilà.
Philippe Chevillier, premier regard sur Gardienne.
Déjà, je trouve que c'est un spectacle intéressant pour un homme d'aller voir ce... Tout d'un coup, on n'est pas idiot et on connaît tout ce qu'a pu être la période, évidemment, des avortements clandestins. Mais c'est vrai que quand on arrive, on a l'impression qu'on va avoir une chronique familiale un peu douce amère et un numéro peut-être de Brachetti avec la comédienne qui va changer de personnage. Et en fait, on se rend compte qu'on est plongé dans une histoire sociale, féminine, et qui nous dit des choses très dures sur la société, sur les familles modestes, avec ces naissances qu'on pouvait pas contrôler, et donc l'avortement devenait une chose courante, au point que il y a une des tantes qui se retrouve à être même faiseuse d'ange et qui sous Pétain risque la mort. Donc, et on a aussi la vision surtout des hommes qui ne veulent pas savoir, qui sont en dehors de tout ça, et du coup de la sexualité qui devient une crainte pour ces femmes qui se disent si je couche encore avec mon mari, je vais avoir des enfants. Alors tout ça, c'est un peu banal que de raconter tout ça, mais dit par elle avec ces témoignages, c'est quand même assez fort, et ça touche. Et moi, au premier degré, j'avoue que j'étais quand même secoué pendant tout le spectacle, et je pense que c'est vraiment intéressant. La deuxième chose, c'est qu'effectivement elle habite bien ses personnages. Alors, avec la difficulté qui est, comme c'est une même famille, elle va pas nous faire des... Il y a des personnages qui se ressemblent un peu, donc il y a un côté répétition. Je trouve qu'elle joue assez bien la gouaille un petit peu dans son jeu des années 20, des années 30, et puis elle revient vers plus de naturel aujourd'hui. Elle arrive à négocier ça assez bien. Après, il y a quelques longueurs. Je comprends ce que dit Marie sur l'aspect manque de théâtre. Disons que moi, je pense que c'est quand même un texte théâtral, une pièce à laquelle j'ai assisté. Disons qu'il manque peut-être ce petit coup de fiction, de fantaisie, qui fasse qu'on passe tout d'un coup à autre chose qu'au propos qui est très fort, mais qui est effectivement un peu univoque. Ça manque peut-être un peu, mais bon, moi je suis quand même sorti avec, en me disant, c'est quand même un spectacle, ça m'a vraiment intéressé, et j'engage vraiment surtout nos auditeurs à aller voir ce spectacle, avec des auditrices aussi, mais nos auditeurs principalement.
Regarde Lucille Como sur Gardienne.
Oui, c'est intéressant aussi pour les femmes jeunes, comme moi, bon, comme vous aussi Marie, parce que pour le coup, c'est vrai que ce sont des choses qu'on oublie et pourtant qui sont proches de nous, la question du contrôle des naissances. Moi, j'étais assez même surprise moi-même de me retrouver dans cette surprise-là, de me rendre compte de la difficulté que ça pouvait être. Je suis assez partagée sur le spectacle que j'ai trouvé assez intéressant, disons, dans une première partie, quand elle ne fait que juxtaposer les personnages sans avoir ce qui devient le propos de la seconde, l'ambition de créer une sorte de généalogie un peu pseudo-psychanalytique de ce que transmettent les femmes qui ont eu tant de difficultés à vivre leur sexualité et à vivre leur maternité à leurs filles puis à leurs petites filles. Je trouve qu'il y a quelque chose de trop démonstratif dans ce fil-là, le fil généalogique, très naturaliste, qui est un peu à l'ancienne, quoi, et pas très creusé, mais c'est normal, c'est un seul en scène qui dure une heure et quart. Évidemment que la question du trauma, elle va pas être traitée, mais du coup, peut-être il y aurait pas pas du tout fallu que ça arrive sur le devant de la scène, parce que dans la succession, en effet, des portraits de ces femmes qui sont globalement un peu quand même de la même génération, parce qu'il y a 6 sœurs en l'occurrence, donc génération des femmes nées dans les années 20, on va dire, il y a quelque chose d'assez saisissant. Moi, il y a eu un moment où je me suis dit, mais là, elle va quand même assez loin, alors que je m'attendais pas à ça. En plus, elle est très jolie, donc elle arrive sur scène, elle est très bien habillée. Au début, elle a des petits talons rouges. Et puis, il y a quand même des moments dans l'écriture où ça fonctionne assez bien, parce qu'il y a une forme de radicalité, pas dans l'engagement politique du discours un peu basique, mais justement dans la description physiologique de concrètement le sang, comment on se met, à quel point on souffre, on va à l'hôpital au dernier moment, puis on n'en veut pas de cet enfant. Enfin, c'est quand même hyper violent par moment. Et cette radicalité-là, si elle avait été tenue, mais c'est difficile, et encore plus, je pense, dans un seul en scène, sur la longueur, je pense qu'elle aurait pu créer plus d'effets. Moi, j'ai beaucoup pensé au texte d'Annie Ernaux qui s'appelle L'événement pendant tout la pièce, parce que c'est un grand texte vraiment majeur sur l'avortement et qui fonctionne justement extrêmement bien parce qu'il y a des scènes d'une violence physiologique, mais qui sont presque, bon, le livre, il est difficile à tenir, quoi. Et cette violence-là, je pense que sur une scène, ça serait courageux vraiment de la porter jusqu'au bout. Et là, je pense qu'il y a des limites quand même. Peut-être les limites de l'agréable. Il faut quand même faire un spectacle un peu pédago, qui en effet plaise un peu à tout le monde, ce qui est normal, mais ça vaudrait le coup d'aller plus loin peut-être.
Non, mais c'est vrai que pour revenir sur ce que vous disiez au début, sur la question du message assez simple, mais donc celui de l'émancipation des femmes, le droit des femmes à disposer de leur corps, moi je trouve que c'est important que effectivement les jeunes générations, et pas seulement les hommes, entendent cette histoire-là, parce que c'est une histoire très récente. Et donc dans un monde qui va très très vite, moi je me dis que c'est quand même bien que les jeunes générations savent comment vivaient leur mère, leur grand-mère, et leur arrière-grand-mère. Ayant vu ce spectacle à Avignon, ils avaient disposé à la sortie de la salle un livre d'or pour que les gens notent leurs commentaires. Et moi, j'étais allé voir assez tard à Avignon et j'ai regardé un peu. Il y avait quand même une densité d'émotions. Enfin, c'est un spectacle qui touche à l'évidence qui moi, m'a aussi beaucoup touché parce qu'il y a cette fausse simplicité du texte, comme ça. Et en vous écoutant aussi, Marie Sorbier, sur les trucs de théâtre, ou est-ce qu'il y a peut-être pas assez de théâtre. Du coup, je fais le lien avec un spectacle dont on parlait la semaine dernière, ça va peut-être vous étonner, mais qui est La fin de l'homme rouge, d'après Svetlana Alexeyevitch, mise en scène d'Emmanuel Mérieux, qui était au Gémeaux en ce moment. Et finalement, la méthode de Fanny Cabon, c'est la même méthode, c'est-à-dire on recueille des témoignages, on les coud ensemble, et on a une succession de monologues. Et moi, c'était mon problème avec La fin de l'homme rouge, je trouve que la partie vidéo, effet sonore, ne fonctionne pas très bien. Il reste les interprètes qui sont dans La fin de l'homme rouge très bons, et je trouve qu'effectivement Fanny Cabon, elle a cette force et cette douceur de porter les choses quand même assez frontalement. Moi, je, comme Philippe Chevillier, ça m'a peut-être, et en tant qu'homme, et je sais pas, en tant que fils de féministe de la première heure, ça m'a particulièrement touché. Moi, ça m'a fait monter les larmes aux yeux, hein, pour ne rien vous cacher. Lucile Como.
Non, mais pour poursuivre, par exemple, il y a un passage vers la fin du spectacle où une des sœurs est celle qui est d'ailleurs la faiseuse d'ange et la plus politiquement articulée et qui livre un discours vraiment sur Simone Veil, sur ce que ça a changé. Je trouve ça très dommage. En fait, ça, c'est presque paradoxalement, ça. Ça fiche un peu en l'air ce qui s'était passé juste avant, qui était une succession de résignations et de gens femmes qui ne s'interrogent absolument pas sur le fait que leur mari vient pas à l'hôpital avec elles, ne sachent pas quand elles ont leurs règles, ne sachent pas ce qui se passe dans la cuisine l'après-midi. Tout ça, finalement, mis bout à bout, le côté témoignage, je trouvais qu'il y avait une forme de vrai engagement politique. Dès qu'on nous parle de Simone Veil et des dates, etc., je trouve que ça perd en force.
Mais vraiment. C'est vrai, parce que je vous redonne la parole, bien sûr, mais ces récits-là, ils sont pas doloristes, parce qu'en fait le patriarcat, il est tellement intégré.
Oui, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est très manifeste, et c'est une vraie forme de
fatalisme.
Là, il y a vraiment du théâtre quand il s'agit de ça, parce qu'il y a un écart entre ce qu'elles disent et le sens. Alors que quand on nous livre un discours, bah il y a plus d'écart, il y a plus de théâtre.
Philippe Chevillier.
Et puis quand même, on n'est pas seulement dans le vintage, c'est-à-dire que je trouve qu'elle manie assez bien justement le rapport au présent et le fait que la lutte est pas terminée, le rapport au médecin par exemple. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'il y a un côté très noir quand même dans ce spectacle, notamment sur l'amour, parce que du coup, on se dit il y a l'amour maternel. Alors ce qui est très beau en revanche, c'est comment arriver à exprimer sur scène ses enfants qu'on ne peut pas recevoir et ceux qu'on veut, qu'on désire et qu'on aime, et ça, elle le fait très bien. Donc la filiation, enfin la maternité, on sent tout cet amour qui peut être porté. En revanche, les rapports entre les hommes et les femmes, ça c'est assez glaçant parce qu'on se rend compte à la fin que ça c'est la partie la plus noire du spectacle. Je trouve ça intéressant.
Marie Sorbier.
C'est-à-dire qu'on a eu ces temps-ci pas mal de spectacles documentaires. Ça aurait pu être classé dans une filiation de ça de spectacles documentaires, mais ça n'en est pas. C'est-à-dire qu'elle a quand même essayé de le mettre en scène. Et moi, c'est ce décalage-là. C'est-à-dire, assumer le documentaire, ça aurait été intéressant. En effet, comme finalement, elle le fait un peu au début du spectacle, même si je trouve que l'accent est en trop, cette espèce d'accent de gouaille du départ. Enfin bon, mais on aurait pu y être. Et après, comme elle a essayé d'en raconter une histoire et d'en faire un fil, on sort de ça et on tombe dans un espèce de théâtre privé du Off Avignon qui m'a fait un peu sortir du coup et qui m'a fait me détacher de ce spectacle. Après, je vous rejoins. Moi, j'étais au gymnase ce week-end et il y avait beaucoup de gens à la sortie qui sont venus la voir et des femmes qui étaient très émues et les phrases qui revenaient beaucoup, c'était « Mais moi, j'ai entendu exactement les mêmes phrases de ma mère, de ma tante. » Donc évidemment, il y a quelque chose qui se transmet et dans ça, c'est réussi.
Eh bien, on arrête là. Concernant Gardienne de et avec Fanny Cabon, mise en scène Bruno de Saint-Riquier, c'est à voir jusqu'au 31 mars au théâtre du gymnase Marie-Belle. Ça joue les vendredis, samedis à 19h et les dimanches à 15h. Et un coup de cœur pour Marie Sorbier, pour nous, de Fabrice Gorgerat, que vous avez vu, j'imagine, à Lausanne, votre deuxième patrie, la Suisse. Ça se donne là-bas jusqu'au 24 février, c'est-à-dire en fin de semaine, mais il y a une tournée qui va suivre. De quoi s'agit-il ?
Alors, nous, c'est un spectacle très étonnant et je suis très contente de pouvoir en parler ici. Fabrice Gorgerat, le public français le connaît un peu. Il a tourné un petit peu en France, beaucoup en Belgique, notamment au Centre culturel suisse à Paris. C'est un metteur en scène qui mérite vraiment d'être découvert par ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est quelqu'un qui travaille visuellement et qui travaille beaucoup avec la matière. Donc sur scène, il y a toujours énormément de matières qui sont travaillées, mais c'est quand même du théâtre. Donc il est dans cette filiation-là assez étrange, mais toujours très intéressante. Sa nouvelle création s'appelle « Nous ». Il a voulu travailler à partir du massacre d'Orlando. Ça, c'est le point de départ. Mais le spectacle va bien au-delà.
Massacre d'Orlando, donc une tuerie dans une boîte de nuit gay en Floride.
C'est ça.
Bon, faut quand même
sauf que, pardon, excusez-moi, j'aurais rappeler. Dû resituer. Sauf qu'il le dépasse et il le sublime de façon assez géniale. Et c'est ça qui est très réussi dans ce spectacle. Le spectacle est composé de 4 monologues, enfin disons 4 partitions, avec 4 acteurs et actrices très différentes. Une première partie très théâtrale avec un texte qui est dit. Orlando n'est jamais évoqué au premier degré, c'est-à-dire que c'est un jeune homme qui vient parler de la possibilité de l'empathie après avoir vu ces massacres-là. Ça aurait pu être celui-là où on parle de tous les attentats en général. Le texte est assez fort. On passe dans une deuxième partition qui est une femme. C'est une partition sans mots, très visuelle, avec une musique de fond qui écoute un concert en fait en différé sur son ordinateur et qui se met à danser, à se grimer et à faire une performance physique très étonnante, très dégradée comme ça sur ce concert-là. Troisième, un danseur de hip-hop magnifique qui mime, enfin qui rejoue un événement qui est raconté en voix off, enfin en typo sur l'écran d'un jeune homme qui est bloqué sur le sol de l'attentat et qui peut plus faire qu'avec sa tête se relever et replonger sa tête dans le sang et puis relever sa tête. Donc il remime ça sur scène, c'est très fort. Et une quatrième scène complètement dingue d'un acteur sud-africain qui avait joué d'ailleurs avec Robin Orlin dans son dernier solo et qui est comme ça une espèce de monstre magnifique à demi nu sur un fauteuil en train de boire du champagne, de fumer, avec en projection derrière un documentaire animalier et qui finit par hurler et insulter le public en disant en gros espèce de blanc, c'est aussi votre faute ce qui se passe. Donc c'est un spectacle pluridisciplinaire réussi. C'est-à-dire qu'il y en a rarement, beaucoup s'en targuent et en fait c'est rarement... Le propos est rarement clair. Et là, ce qu'il réussit à faire, c'est qu'il crée des images extrêmement fortes. Le spectacle dure 1h20, c'est assez court. On a ces 4 solos qui arrivent comme ça, on se les prend dans la tête. C'est très bien fait, les images sont magnifiques. Et j'enjoins vraiment tous les programmateurs et puis les gens qui peuvent aller à Lausanne d'ici la fin de semaine d'aller voir ce spectacle. Il mérite vraiment d'être montré en France et ailleurs. C'est un très beau travail, je trouve, qu'il a réussi à faire là. Ça s'appelle Nous/1, je crois, d'ailleurs, le vrai titre.
Ah.
Et le théâtre à Lausanne s'appelle le 221. Voilà.
jusqu'au 24 février, et puis si d'autres dates arrivent...
Oui, je crois qu'ils jouent aussi à Genève, au Grütli, après. Mais
bon, on les signalera, on va chercher tout ça, on va mettre ça sur notre site.
France Culture. La dispute.
Le dernier spectacle à notre affiche, The End of Reality de Richard Maxwell, mis en scène par Marie-Josée Malice, c'est à la commune d'Aubervilliers. Richard Maxwell a 50 ans, c'est un auteur, metteur en scène américain. On a pu avoir l'occasion de voir son travail lorsqu'il a été invité au Festival d'automne, mais jusqu'à présent, aucune de ses pièces n'avait été traduite en français. C'est la première fois également qu'un metteur en scène autre que lui-même monte une de ses pièces. Je n'ai pas pu voir ce spectacle, j'attends donc vos commentaires, mais je sais juste que The End of Reality met en scène les employés d'une agence de sécurité.
On a peur du succès. Et que la peur prenne toute la place. Proche comme on est de frôler les épaules des puissants. Le succès, ça suppose de se vendre, d'aller coucher avec ceux dont on sait qu'ils vont détruire le quartier. Alors, être vrai, c'est plus important qu'avoir du succès pour nous. Nous ne voulons pas que vous ayez du succès, pas parce que nous sommes jaloux ou en rivalité, mais parce qu'on a peur de vous perdre en chemin. Mais on s'égare, n'est-ce pas? On a du talent, hein, pour rabaisser les gens, pour cette forme raffinée d'arrogance qui nous place au-dessus de tous.
The End of Reality, c'était une pièce de Richard Maxwell mise en scène par Marie-Josée Malice. Alors, Philippe Chevillier, j'aurais dû, en raison de l'alternance scrupuleuse à laquelle je m'astreins quotidiennement, vous donner la parole en premier. Mais comme j'ai lu sur les réseaux sociaux votre très fort rejet de ce spectacle, qui n'est pas votre habitude, donc avant d'entendre vos critiques, je vais tenter une autre approche avec Lucille Como.
Oui, c'est une pièce...
Vous n'y attendiez pas.
Oui, surtout chez Philippe, en face de moi, je sais ce qu'il en pense, donc c'est difficile. Qui m'a mise dans un état extrêmement étrange, pas agréable du tout. Mais néanmoins, je pense que je m'en souviendrai vraiment toute ma vie. Ah. Et que c'est peut-être quelque chose que j'ai vu de plus important, je crois, pour moi... pour définir ce que c'est que le théâtre. Alors, il faut déjà décrire un petit peu la scène. Elle est complètement ouverte, cette scène du théâtre d'Aubervilliers. Il y a une sorte d'estrade à l'avant-scène et les personnages jouent beaucoup très très proche du premier rang. La lumière est entièrement naturelle. À un moment donné, je me suis même demandé si tout au fond, c'était pas ouvert. Il y avait des... Bon, de fait, il y a des pigeons, donc j'imagine qu'il y a des ouvertures. Mais en tout cas, l'impression générale qu'on veut nous donner dans le spectacle est que on est dehors. On entend du coup les bruits de la ville aussi, on a entendu des pompiers, comme c'était un après-midi, j'ai entendu une sortie scolaire, les enfants qui crient. Ça, c'est extrêmement intéressant à mon avis. Et puis donc à l'intérieur, il y a des postes de surveillance vidéo, donc plusieurs télévisions qui d'ailleurs ne servent pas à grand-chose puisque ces personnages ne surveillent pas grand-chose. Il y a des éléments qui font penser aux États-Unis, entre guillemets, une sorte de cliché. Donc il y a des trophées de sport, il y a le drapeau américain, il y a une télévision qui diffuse des images qui sont des bouts de documentaires, des bouts de journaux télévisés, plein de choses comme ça. Et donc ces personnages, bon, il y en a trois principaux, puis après il y a des personnages un peu annexes, qui circulent, qui se parlent extrêmement lentement, comme on vient de l'entendre la plupart du temps. C'est extrêmement pénible à entendre. Et c'est en plus une pièce qui ne parle de rien. Alors, on parlait de Beckett tout à l'heure, ça m'a fait beaucoup penser à Beckett, parce qu'il y a un côté extrêmement creux dans les mots utilisés. Donc il est tout le temps question de choses, de je ne sais pas, de rien, de tout. Enfin, rien n'est vraiment déterminé, rien ne fait écho à aucune image de l'extérieur. Alors il y a des petits moments où on comprend qu'on est dans une grande ville américaine, qu'il y a des problèmes entre communautés, que le quartier change, que les églises sont en train d'être détruites. Bon, c'est the end of reality, il y a un côté un peu post-apocalyptique là-dedans. Mais les personnages disent au début, nous ce qu'on fait ici essentiellement c'est voir, et de fait ils ne voient absolument rien. Vous dire de quoi ils parlent vraiment, j'aurais du mal parce que je n'arrivais pas à l'entendre. Mais je pense que c'est fait exprès. Et ça m'a plongée dans un état de semi-attention, semi-inattention, qui m'a vraiment, enfin, vrai, énormément réfléchir sur ce que c'est que la représentation. J'y reviendrai.
Vous allez revenir après cette très belle présentation, parce que je vois absolument, et ça m'évoque évidemment d'autres spectacles de Marie-Josée Malis que j'ai eu le bonheur, le plus souvent, de voir. Marie Sorbier.
Oui, moi j'ai des sentiments aussi un peu ambigus avec Marie-Josée Malis. J'ai vécu des expériences de spectateurs terribles, enfin des souvenirs comme ça terribles. Et là, j'étais très heureuse de voir ce spectacle parce que, en effet, il y a quelque chose de pénible, on peut pas l'enlever. Mais moi, j'ai retrouvé quand même quelque chose qui m'a permis d'aimer ce spectacle. Voilà. Et alors, je suis pas du tout d'accord avec vous sur le texte. Moi, je trouve que alors Maxwell, qui est quelqu'un que j'aime énormément, on avait vu ses spectacles au Festival d'automne, ça faisait partie d'une trilogie. Donc nous, on avait vu The Evening en 2016, je crois, et Paradiso. En 2018, hein, cette année, c'est un auteur formidable. Et il faut rendre grâce à Marie-Josée Malis de l'avoir et traduit et monté, puisqu'on ne le voyait que par lui-même. Et c'est quand même intéressant de voir des textes montés par d'autres metteurs en scène. Quand on avait annoncé ça sur le papier, ça m'avait semblé quand même très très étrange. Hein, le binôme, ça venait un peu de nulle part, mais très bien, pourquoi pas. Et finalement, ça marche. Ce texte, d'abord, je l'ai trouvé incroyable. C'est vraiment ça, la découverte. J'ai entendu le texte. Alors, en effet, c'est très lent, donc on l'entend bien. Maxwell l'avait monté lui-même, ça durait 1h30. Là, on est à 2h50 avec le même texte. Donc voilà, on imagine la façon dont les dialogues sont étirés. Il y a quelque chose de pesant, et en même temps, je trouve qu'on entend ça merveilleusement bien. Pour moi, ça parle de beaucoup de choses. J'y ai entendu énormément de choses. Des monologues magnifiques sur la foi, notamment. Quelque chose de très mystique, avec des mots effectivement très simples, puisque ce sont toujours des gens de la middle class américaine, hein, dans les pièces de Maxwell. Donc là, on est chez des agents de sécurité, avec une stagiaire, et puis voilà, c'est vraiment des gens
simples,
qui ont des pensées très claires. C'est-à-dire que par moment, quand ils prennent la parole, qu'ils avancent sur ce promontoire, c'est pas un promontoire, c'est une avancée comme ça. Il y a une avancée vers la scène qui sort de la scène, voilà, vers la salle, pardon, comme un podium. Par moment, ils s'y avancent, ils regardent le public dans les yeux. Dans les pièces de Marie-Josée Malis, tout est toujours tout éclairé, hein, donc la salle est pleine lumière. Et donc, on a ces acteurs qui livrent comme ça quelque chose de très juste sur l'état où ils sont, une espèce de misère humaine, mais des rêves aussi, ils sont en train de chercher des choses, ils parlent de cinéma, ils parlent de faire autre chose, ils parlent de foi, de leur rapport à Dieu, et c'est quand même très fort, quoi.
Alors, Philippe Chevillier.
Alors moi j'avais vu donc Hyperion il y a je sais pas, cinq, en 2014, j'avais été complètement affligé. Je reviens là et je suis tout
autant... Ah, vous n'avez pas vu Entre ?
Non, mais
je
suis heureux de pas avoir vu Entre. Là j'ai vu ce spectacle et j'étais tout autant affligé. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, parce que moi Richard Maxwell j'aime beaucoup et je trouve que c'est ce côté un peu... Il y a un petit côté sitcom, un côté la banalité du quotidien, et on a des décrochages, on a des moments comme ça de... Et ce texte-là, particulièrement, est subversif. Il y a cette dimension, il y a cette réflexion sur la foi, mais il y a aussi cette réflexion sur la politique qui est très intéressante. Et ce qui est formidable, c'est jouer vite. Il y a des petits chanteurs, des petits côtés punk et tout ça. Et là, du coup, si je prends l'exemple, par exemple, vous prenez la Rhapsody in Blue de Gershwin, vous la jouez très très lentement, ça va être une catastrophe. Et moi, j'ai eu l'impression d'assister à une catastrophe théâtrale. Et pourquoi? Parce que le jeu sur scène qui nous est proposé, alors il y a trois sortes de jeux. Il y a le non-jeu, donc qui est un peu le jeu distancié, ça je veux bien. Un jeu qui se veut parodique, qui pourrait être intéressant, parce que il y a ce côté, les clichés américains, donc il y a un des personnages, que je crois que c'est Brian, qui a un petit côté capitaine ad-hoc, ça peut être sympa. Bon, je trouve que ça va pas très loin parce qu'il est pas bien dirigé. Et puis, chaque fois qu'on a quelque chose de profond dans le texte, et c'est difficile à faire parce que la profondeur, elle s'arrête, c'est toujours des bribes de phrases. Alors, surtout cette comédienne que moi je trouve très bien, elle joue, on dirait, mais c'est Phèdre par Sarah Bernhardt. C'est-à-dire qu'il y a trop d'émotions avec une gestuelle que je trouve moi assez grotesque et des déplacements, des entrées, des sorties, des jeux avec les chaises à roulettes, c'est ni fait ni à faire. Et quand je lis la note d'intention de Marie-Josée Malis, je me dis, mais c'est vachement intéressant ce qu'elle raconte. C'est très intéressant. Le décor, je suis d'accord, elle a trouvé un truc qu'elle utilise à chaque fois, mais bon, après tout, c'est quand ça passe sur le plateau, que ça, pour moi, ça ne marche pas. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est pas que, que ça soit une mauvaise mise en scène, c'est que ce n'est pas du théâtre du tout. C'est du théâtre de laboratoire, c'est universitaire. Et je me dis, et je me dis, les enfants d'Aubervilliers, les jeunes qui peuvent voir ce spectacle, c'est pour ça que je me mets en colère, parce que c'est pas une criminelle. Elle sait ce qu'elle fait, elle a une sincérité, une conviction dans son art. Mais pour moi, c'est vraiment la négation du théâtre et de tout ce que j'aime au théâtre. Voilà.
Marie sort bien rapidement, puis Lucille Comeau.
Oui, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un théâtre accessible. Ça, c'est sûr. On est très peu nombreux dans la salle et non, c'est pas un théâtre.
Enfin, j'ai pas vu celui-là, mais j'ai entendu les mêmes types de critiques que celles de Philippe Chevillier sur les spectacles de Marie-Josée Lemis. Moi, je crois au contraire, c'est extrêmement accessible.
Celui-là, il l'est pas.
Bon, mais...
parce que autant Pirandello, je veux bien, parce qu'il y a un texte de Pirandello
pas,
qui fait qu'on suit.
Pas que Pirandello.
Mais je trouve que celui-là. Il l'est pas forcément, mais c'est pas ce qu'elle cherche. Et puis on n'est pas obligé non plus de faire du théâtre accessible tout le temps partout. On a le droit d'aller dans un théâtre élitiste ou universitaire. Moi, ça ne me gêne pas et je trouve pas ça grave. Là où je vous rejoins, par contre, c'est sur la comédienne dont je n'ai pas le nom.
Marie Schmitt. Elle est géniale.
Qui est bien, mais je vous rejoins un peu. J'ai trouvé les moments pleurnichards un peu trop pleurnichards et du coup on perd peut-être un peu de la puissance de ce texte qui nécessite pas non plus autant d'émoi et autant de surjeu. Mais chaque acteur étant dirigé très différemment, aussi ça donne une espèce de puzzle comme ça étonnant.
Alors Lucille Comeau, pourquoi ce spectacle va vous rester?
Ah oui, alors bon, pour partir de Marie Schmitt par exemple, donc cette comédienne qui a en effet une gestuelle extrêmement étrange, ça met presque mal à l'aise. En plus, c'est celle qui nous aborde le plus, qui nous regarde le plus. Elle pleure, enfin il y a une grande intensité et en effet elle fait beaucoup de gestes avec ses mains, qui sont complètement décalées. Et moi, toute cette question de l'arbitraire, de pourquoi on met une chaise à roulettes là à un tel moment, pourquoi on ouvre la bouche, pourquoi on dit ces deux mots-là, on décide de les décaler les uns des autres, parce que c'est la même chose en fait, la question de la lenteur et la question de la gestuelle, c'est l'arbitraire total. Et nous, spectateurs aguerris, professionnels, on est exactement, du coup, dans le même état que n'importe qui n'est jamais allé au théâtre. Et moi, j'étais l'après-midi, il n'y avait personne, il y avait juste une classe ou deux de, je dirais, première terminale. Bon, c'était pas des tout jeunes d'Aubervilliers. Et je suis rentrée, je me suis dit, oulala, ça va être compliqué là quand même. Et en fait, ils étaient, bon, des fois, ils se marraient, ils sortaient un peu leur téléphone, mais comme moi, en fait. Exactement comme moi. C'est-à-dire que c'est tellement étrange, ça remet tellement en question le fait juste d'avoir des personnes devant soi qui nous parlent, que du coup, on est à égalité totale devant un texte qu'on ne connaît pas de toute façon, des gestuels qui ne font référence à rien et qu'on ne connaît pas, un ton qui n'est ni en effet le ton de la série, ni du cinéma. Ça aurait été tellement facile de jouer ça comme du Seinfeld. D'ailleurs, il est question à un moment donné de Seinfeld. Là, ça aurait été facile, l'espèce de small talk à l'américaine où on parle très vite. Et là, la solution, elle n'est pas de facilité, certes, mais c'est une solution qui met tout le monde au même pied d'égalité devant le spectacle.
Philippe Chevillier.
Et moi, j'y vois un jeu totalement maniéré où toute intention est appuyée, mais avec 10 tonnes d'intention. Je trouve ça maniéré, je trouve ça appuyé, je trouve ça maladroit. Alors c'est vrai que ce qui est étrange, c'est qu'à force d'avoir un non-théâtre comme ça, et un théâtre qui pour moi est totalement maladroit, on arrive à créer une atmosphère. C'est un peu comme une installation. Mais franchement, je me dis quand même, encore une fois, c'est pas pour faire le côté... on est Aubervilliers, je trouve qu'on peut avoir du théâtre populaire, élitiste, mais là c'est ni populaire ni élitiste, c'est pas du théâtre pour moi, voilà c'est tout.
Bon, là je peux pas rentrer dans le débat sur cette pièce-là, mais dernier mot, Marie Sorbier ou Lucille Comeau? Lucille, vous avez beaucoup à dire sur cette pièce.
Mais j'ai l'impression qu'on parle pas exactement sur le même terrain, parce que moi élitiste et populaire, déjà je comprends pas trop bien ce que ça veut dire, et je ne peux que répéter que devant une telle étrangeté, devant une proposition qui ne ressemble à rien d'autre, enfin vraiment de ce qu'on voit au théâtre, de toute façon, et puis en plus vous dites c'est une installation, mais une installation c'est très bien, enfin moi ça m'intéresse vachement d'aller voir une installation.
Mais bon, on s'ennuie pendant 3 heures.
Oui, on s'ennuie, c'est vrai. Moi, je me suis beaucoup ennuyée. L'ennui, c'est quand même quelque chose dans notre époque qui a une matière spéciale, un temps très particulier dans notre vie, qui, par exemple, pour les gamins qui étaient là, je pense, est une excellente expérience. Mais vraiment, je le pense vraiment.
Allez,
et puis juste
pour
écouter ce texte de Richard Maxwell, pardon, j'y reviens, je pense que ça vaut le coup d'aller passer 3 heures à Aubervilliers.
Alors ce qui est étrange, c'est que Lucille
oui, moi
dit que c'est
je l'ai pas entendu,
rien,
mais c'est pas grave.
Et qu'elle l'a pas entendu,
non,
et vous, c'est un texte qui parle de tout, et
ah
vous
moi,
avez
j'ai
très bien
ça
entendu.
Et rien,
non, mais
c'est
moi, j'aime bien, moi aussi, le texte.
Ah ouais. Non, mais c'est vrai.
Non, mais c'est vrai, donc c'est pour dire à quel point on peut ressentir très différemment.
Oui. Vous
n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord.
Ça commençait l'émission, comment ça, on était un peu d'accord.
Ça me donne très envie d'aller voir The End of Reality. Il faut que je me dépêche. Non, mais bon, c'est vrai que le format a duré, que le jour où je devais y aller, c'était plus possible. Mais bon, c'est un texte de Richard Maxwell, mis en scène par Marie-Josée Lemalis. Pour l'instant, il est jusqu'au 22 février à la commune d'Aubervilliers, mais nul doute qu'elle le reprendra plus tard. Bon, on n'a plus le temps que je demande son avis à Sarah Dion, qui a vu ce spectacle aussi. Plutôt l'équipe chevillée, je crois.
elle dit oui, elle fait oui. Mais,
elle va nous rappeler, Sarah, la question du jeu de la dispute qu'elle a posée elle-même vendredi soir et nous donner sa réponse.
La question de vendredi était: dans quel film de Sacha Guitry découvre-t-on le duo formé par Jean Poiret et Michel Serrault? Et la réponse est Assassin et Voleur.
Ce soir, nous avons gagné des invitations pour des expositions où il y a plein d'installations. La nouvelle saison du Palais de Tokyo, ça s'appelle Sensible. Ça ouvre après-demain, 20 février, ça sera jusqu'au 12 mai à Paris. Quelle est la question, Sarah?
De quel matériau est intégralement recouvert le bâtiment du Palais de Tokyo?
Votre réponse, avec vos coordonnées postales, à envoyer par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions ou vous abonner à son podcast. Demain, à 19h, une dispute consacrée à la musique avec Sophie Bourdet, Charles Ardenne et Laurent Burry. Nous parlerons d'une sortie en DVD, celle de l'opéra Lessons in Love and Violence de George Benjamin, livré de Martin Krimpt. C'est chez Opus Arte. Ce sera joué ensuite à l'opéra de Lyon. Mademoiselle, c'est un disque, nouveau disque de Julie Fuchs. Et un disque de Schumann par Sol Gabetta. Un coup de cœur pour Harold dans l'Italie, les nuits d'été. Un disque des siècles avec François-Xavier Roth. Évidemment, à la direction.
France Culture, l'esprit d'ouverture.